On a appris quelque chose. Ce matin, on a appris que le Canada a perdu sa cote de crédit 3A chez Fitch, qui est une firme de notation de crédit. C'est pas la seule qui note le Canada en passant. Il y en a quelques-unes. Mm. Et pour l'instant, Fitch, c'est la seule qui a baissé la cote de crédit. Donc, on est passé de 3A à 2A+. Mais pour toutes les autres firmes de notation, on est quand même resté à 3A. Mais quand même, c'est la première fois en 25 ans qu'on est décoté comme ça.
Oui,
là.
Moi, je suis pas trop sûr de ce que ça veut dire. La seule chose
moi
que je comprends, c'est que ça va coûter plus cher.
On comprend que les dépenses que le Canada a fait probablement en temps de COVID, ça a eu un impact sur notre crédit.
Oui.
Écoute, mais moi, je peux pas dire que ma spécialité dans la vie, c'est l'économie. La seule chose que je sais, c'est que plus notre cote de crédit est basse, plus on paie cher d'intérêt sur les emprunts qu'on fait. Fait qu'ultimement, ça va nous coûter plus cher. Mais reste que c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce sujet-là, parce que je suis pas économiste, puis c'est un sujet qui est très complexe. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir nous aider, qui va pouvoir répondre à nos questions beaucoup mieux que nous, on peut le faire. C'est Francis Gosselin, on va le rejoindre à l'instant. Il est économiste. Il va pouvoir nous aider avec cette nouvelle-là ce matin. Monsieur Gosselin, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien vous-même.
Très, très bien, oui.
Bon, si on fait une espèce de chronique, l'économie pour les nuls, là, M. Gosselin, parce que je vais m'inclure là-dedans, là, je comprends qu'il y a une question de taux d'intérêt là-dedans. Je sais que quand on a une cote de crédit 3A, on paie moins en intérêt sur nos emprunts que quand on a une cote de crédit 2A+, par exemple. C'est quoi les autres implications dans la cote de crédit? Pourquoi c'est important pour le Canada?
Bien évidemment, donc ce qu'il faut savoir, c'est comme vous l'avez dit dans l'introduction, il y a plusieurs agences là, qui analysent la situation canadienne, l'économie canadienne, puis contrairement à la cote de crédit que vous et moi on a, là, qui est-ce que tu as payé ton cellulaire à temps et tout ça, c'est quand même le résultat d'analyse assez poussée. Et en fait, ce que ça mesure, la cote qui est donnée par Fitch ou par Moody's ou Standard & Poor's, c'est le risque de défaut d'une nation ou d'une grande entreprise. C'est essentiellement, ça s'applique essentiellement à des titres qui sont transigés à la bourse. Fait que si, genre, moi, je suis personnellement président d'une compagnie de conseil, mais j'ai pas une cote de crédit comme le Canada ou comme Google, par exemple. C'est calculé totalement différemment. Là, on parle vraiment d'instruments qui sont cotés donc en bourse, donc comme la dette canadienne. Puis donc, triple A, c'est parfait. En fait, c'est la meilleure cote qu'on peut avoir. Puis je lisais, là, je me rappelle plus ce matin, mais en gros, c'est comme si on était passé de parfait à pas mal, à vraiment très bon. C'est pas non plus. Il n'y a pas péril en la demeure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cotes donc fonctionnent par des lettres, vous l'avez dit, donc c'est triple A, ensuite c'est double A, puis ensuite c'est triple B, double B, B, triple C, double C, C, et D, c'est comme en faillite technique, là, donc on peut pas être un D non plus. Il y a peu de pays qui sont des D, notamment. Ouais. C'est ça, donc le Canada se retrouve quand même au sommet du palmarès. Ça reste que dans les pays du G7, là, qui sont les pays plus riches qui se réunissent régulièrement, le Canada et l'Allemagne avaient ce privilège-là d'être des triple A. Donc, d'être les meilleures dettes au monde. Et dans le fond, ce que ça veut dire, ben, vous l'avez dit, c'est que si quelqu'un veut prêter de l'argent au Canada sur les marchés internationaux, ben, il est certain qu'il n'y aura pas de défaut. Donc, c'est la parfaite cote de crédit. Donc, ce qui veut dire que quand on va prêter de l'argent, on va exiger un taux d'intérêt moins grand parce que le taux d'intérêt, finalement, c'est toujours un reflet du risque qui est perçu.
OK. Mais est-ce qu'une firme qui est plus importante qu'une autre? Parce que, par exemple, bon, avec Fitch, on est rendu à 2A+, mais avec Moody's, on est encore à 3A. Fait que c'est laquelle qui va compter la cote?
Il me semble que Moody's, on les entend souvent, hein, Francis?
Ouais. Oui, ben Moody's, on les entend souvent. Après, c'est comme, je pourrais vous poser la même question, mettons, pour les quotidiens. C'est quel le quotidien le plus important? Ben, c'est celui que vous lisez ou que vous écoutez, n'est-ce pas? Fait que dans le fond, un investisseur qui va vouloir placer son argent, il va probablement aller voir les trois, puis il va se faire une tête sur c'est quoi le niveau de risque. Tout ça, c'est toujours un peu le fruit là, de transactions multiples, de négociations. C'est pas comme une valeur absolue, si vous voulez. C'est comme un avis. Et donc, c'est comme s'il se passait un événement, ben je dirais, je sais pas, la presse, les affaires, j'écouterai Cogeco, puis je finirai de tout ça à me faire une idée. Ben, c'est un peu la même manière que les investisseurs vont fonctionner. Ils vont aller voir les trois agences, puis ils vont se faire une tête. Il faut aussi savoir, comme j'ai dit, que c'est le résultat d'analyses assez sophistiquées. Donc, Fitch a sorti aujourd'hui, ça veut pas dire que demain, dans 3 jours, dans 10 jours, Moody's va pas faire la même chose.
Okay.
Et ces gens-là, ils passent pas leur vie à dire « Hey, aujourd'hui, tu sors ton truc en même temps. » C'est des agences, on l'espère, indépendante. Fait que j'imagine qu'en ce moment, il y a des gens chez Moody's qui sont en train de regarder la situation du Canada puis à décider est-ce que ça mérite encore la cote triple A ou est-ce que ça va être abaissé? Puis encore une fois, selon la plupart des analystes qui regardent la situation canadienne, le fort niveau d'endettement qu'on a fait dans les derniers mois, il est très probable que ça va baisser partout à double A+. Puis j'ai personnellement la conviction que ça va baisser encore dans les prochains mois parce que on n'est pas sorti du bois. L'économie canadienne, là, on n'a toujours pas eu de mise au point économique du ministre Morneau depuis le début de l'année, ce qui est assez bizarre. À un moment donné, ils vont nous dire un peu où ils en sont, quel va être l'impact sur l'ensemble de l'économie. Est-ce qu'on va perdre 4 % du PIB, 5 %? La semaine dernière, vous avez vu au Québec le ministre Girard qui a annoncé donc une perte de PIB probable autour de 6 à 6,5 %. C'est énorme. et ce qu'il faut savoir dans tout ça, donc, c'est que les pays ont des dettes qui sont mesurées en dette sur le PIB. Donc, c'est toujours une question de ratio. C'est comme dans un ménage, si vous gagnez, 20 000 $ par année, puis vous avez 10 000 de dettes, ben votre ratio, ça va être 50 %. Ouais. Pour les pays, c'est des milliards et des milliards, mais ça reste qu'on mesure ça en ratio de dette sur PIB. Et là, si d'un côté, comme au Canada, vous faites des 100 et quelques milliards de déficit cette année-là et que vous perdez du côté du PIB 5-6 %, mais votre ratio il augmente un peu dans les deux sens. Si vous voulez, la fraction augmente beaucoup plus rapidement. Le Canada était dans une super bonne position avant la crise. On était autour de 34 % de dette sur PIB. Et là, on nous annonce qu'en une année, on va augmenter de 12 %. Donc, on va passer à 46 %. C'est comme du jamais vu.
Ben, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, le Canada ne doit pas faire exception dans le monde parce que tous les pays ont pris des mesures pour essayer de protéger leurs citoyens contre des faillites et protéger les citoyens qui avaient perdu leur emploi. Fait que là, ça sort ce matin, ça concerne le Canada. Mais j'imagine que dans les prochains jours, les prochaines semaines, comme tu l'as bien dit, il doit y avoir d'autres pays qui vont voir leur cote de crédit diminuer, qui font partie du G7, là.
Ben, je le disais, donc, on était les seuls avec l'Allemagne à avoir cette cote-là de triple A. Donc, là, après, j'ai fait ma petite recherche tout à l'heure. La France, le Royaume-Uni, la Belgique, qui sont des pays, bon, qui nous ressemblent au moins en termes de niveau de vie, ont la cote double A ou double A+. Donc, on est encore dans le club des pays pas pires. Des pays comme l'Italie ou l'Espagne ont des moins bonnes cotes, évidemment. Ils ont eu des difficultés ces dernières années, ces pays-là, mais ça reste des A ou du triple B. Donc, ça reste dans le haut du classement. Et on est meilleur qu'eux. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Ça reste que si de manière un peu rapide, on continue à dépenser beaucoup d'argent, comme on l'a fait ces derniers mois, ça pourrait affecter à terme notre cote. Et donc, comme vous l'avez dit dans l'introduction, l'impact que ça a, c'est que ça nous coûte plus cher de nous financer. Donc, c'est pas juste je dois tous ces milliards, mais à chaque année dans mon budget de l'État, je vais devoir allouer plus de milliards à payer juste l'intérêt sur la dette.
Ouais, là-dessus, ces Francis, dollars-là, hein. Ça peut représenter quel montant supplémentaire? Parce que, tu sais, la cote, elle perd un peu en importance. Là, au Canada, tu vois que, ben, tu l'as dit, là, on passe de 3A à 2A+, mais tu sais, au Québec, on paye quoi? De 6 à 10 milliards d'intérêt sur une dette d'un peu moins de 200 milliards. Là, Ottawa, on parle que ça peut s'approcher du 1000 milliards de dollars. Ça peut représenter quoi, ça, quand on se fait décoter?
Comme je l'ai dit, sur une décote de triple A à double A+, ça va avoir un effet relativement marginal, surtout dans la mesure où, en ce moment, c'est juste une des agences qui a fait cette décote-là et pas les trois. Il faudra voir aussi, éventuellement, ce que les autres font, puis quels sont les autres. Il y a une dynamique là, dans tout ça, ce qu'il faut comprendre. Et ça s'applique surtout sur la nouvelle dette. Donc, les dettes qu'on a déjà contractées il y a ces dernières années, ben, elles ont été généralement fixées à des taux qui reflétaient notre code de crédit triple A. Puis donc, le Canada était déjà un pays qui payait très peu proportionnellement par rapport à sa dette. Le problème, là, c'est que c'est double. Puis c'est toujours la même chose, tu sais, dans la société civile, c'est toujours les gens plus pauvres qui ont tendance non seulement à s'endetter plus, mais aussi à payer des moins bons taux d'intérêt parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de négociation. Ben, c'est la même chose pour les États. Donc là, doublement, on s'endette beaucoup, hein, 176 milliards, là, les derniers chiffres que j'ai vus au Canada. Donc, comme tu l'as dit, Alexis, ça va. Donc, on va taper le 1000 milliards, mais en plus, on va payer donc en pourcentage plus d'intérêt sur chaque dollar de dette. Pour moi, l'indicateur le plus intéressant, ça va être de voir comment on va stabiliser la situation du déficit dans les prochains mois, les prochaines années. Parce que qu'on paye un point de pourcentage, un dixième de point de pourcentage de plus, c'est pas dramatique. Mais si on rajoute un autre 10 % de dette sur PIB l'an prochain pour pallier à ça. Là, on va commencer à créer des problèmes qui vont devoir être résorbés à plus long terme, soit en coupant dans les services, en augmentant dans les impôts. Et ça, ben, personne ne veut ça, évidemment.
Mais pour le commun des mortels, ça va changer quoi? Moi, là, personnellement, ça m'affecte en quoi, cette baisse de cote de crédit-là?
Ça change pas grand-chose, honnêtement, pour les particuliers. Si vous avez un portefeuille, par exemple, de retraite là, ou d'investissement qui était particulièrement exposé, ça va peut-être un petit peu fluctuer à la baisse. Mais honnêtement, ça, à court terme, ça, comme je dis, c'est une des agences, c'est une toute petite décote. Ça n'a pas un grand impact. Il faut plus regarder ça, comme je dis, à long terme. Est-ce que ça va continuer à baisser? Est-ce qu'on va à un moment donné se retrouver avec un A? Et comme je dis, ça va dépendre des décisions que le gouvernement Trudeau va prendre dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a peut-être juste un petit indicateur qu'il faut garder en tête, là, puis j'aime toujours quand on parle de dette des États. Il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Hein. C'est comme pour les ménages. Quand on fait de la dette pour financer des grands projets d'infrastructure, pour rénover des possessions de l'État, pour, je sais pas, rendre public Hydro-Québec, comme on l'a fait dans notre histoire, c'est de la limite de la bonne dette, c'est de l'investissement étatique. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme jeté un peu de l'argent aux gens pour financer de la consommation. Et ça, en contrepartie, on n'a rien. Là. On a juste un maintien de l'économie, mais on n'a pas d'actifs productifs. On n'a pas acquis rien avec cette dette-là. C'est pour ça que les agences de notation s'énervent un peu. C'est que là, on jette de l'argent un peu par les fenêtres juste pour maintenir nos citoyens à flot, mais on le fait de manière qui n'est pas constructive. Et c'est normal, on le fait rapidement, on le fait dans une situation de crise majeure. Mais là, dans les prochains mois, les prochaines années, il va falloir que ces dollars-là de déficit, s'il y en a, aillent vers des projets structurants pour l'économie canadienne. Pour investir. Et c'est la même chose au Québec, là, je dirais, dans une certaine mesure. Qu'on construise des choses.
Ouais, c'est ça. Et Francis, en terminant, je veux pas qu'on fasse de politique nécessairement. Par contre, j'aimerais ça qu'on aborde un petit peu la question du Parti libéral de Justin Trudeau, parce que depuis le début de son... En fait, depuis sa première élection à Justin Trudeau, il y a maintenant, quoi, 5-6 ans, je pense? 5 ans, cette année, ouais.
2015.
C'est ça, 2015. C'est ça. Ça fait 5 ans. T'as plusieurs personnes qui, en fait, t'as plusieurs analystes et critiques qui disaient qu'ils avaient mis les finances à terre, et ça, avant la pandémie, je parle, qu'ils avaient mis les finances à terre, qu'ils avaient dépensé en malade, que ça allait prendre des générations et des générations à rembourser, que comparativement au travail que Stephen Harper avait fait du côté des finances, il a vraiment tout brisé ça et tout mis à terre. Mais je comprends qu'avant la pandémie, en fait, avant ce matin, là, avant que la pandémie arrive, on avait encore une cote de crédit triple A. Alors, force est de constater ou d'admettre que les dépenses que Justin Trudeau faisait, que Justin et son parti, en fait, faisaient, c'était pas des dépenses qui affectaient nécessairement notre capacité d'emprunt, là.
Oui et non, là. Puis je veux dire, encore une fois, sans faire de politique, je pense que le gouvernement Trudeau n'a pas été particulièrement responsable depuis son élection, sa première élection. Il faut rendre à César aussi ce qui est à César. Ça fait depuis Jean Chrétien qu'on avait une belle gestion fiscale et budgétaire au Québec. Et ensuite, avec M. Martin et M. Harper, a un peu continué. Puis M. Harper, il était même pas particulièrement bon élève. Il a un peu continué la même logique. Et ce qu'il faut savoir, puis on l'a vécu au Québec avec le Parti libéral, couper dans les dépenses, faire preuve de sagesse budgétaire, c'est coûteux politiquement.
Non, c'est pas payant.
Difficile. c'est pas payant. Personne aime ça dire on va augmenter les impôts ou bien on va couper les services. Ça coûte des points politiques, puis ça coûte des manifestations. Puis c'est très difficile à mettre en place. Puis ça, au Canada, on avait historiquement une belle discipline où on augmentait graduellement les dépenses en programme. Et ça, M. Trudeau, il est comme arrivé un peu comme un binge spender, là, si vous permettez l'anglicisme. Et c'est comme, a rompu avec cette belle tradition-là. Puis, il n'y avait pas de cause pour faire ça. L'économie du Canada jusqu'à février dernier allait bien. Mm-hmm. La raison aurait voulu qu'on continue sur cette lancée, qu'on mette de l'argent de côté.
Ouais.
Et malheureusement, donc, il était déjà dans cette logique. De dire qu'il allait mettre l'économie ou les finances à terre, je n'irais pas jusque-là. Comme je l'ai dit, la dette sur PIB canadienne était déjà dans une super belle position. Mm-hmm. C'est l'héritage de 15 ans là, de gouvernance au niveau fédéral qui a été quand même assez bien fait. Certains diront que ça a été un peu alimenté par le déséquilibre fiscal, mais je veux pas rentrer là-dedans là, pour aujourd'hui.
Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Francis Gosselin, d'avoir été avec nous.
Merci, Elisabeth. Merci. C'est un plaisir de vous reparler.
Merci. Bonne journée. Francis Gosselin est économiste. C'est beaucoup, beaucoup plus clair maintenant. Bon, je comprends, il n'y a pas de panique en la demeure. Pour nous, citoyens, ça ne change absolument rien. Pour notre capacité d'emprunt et les intérêts qu'on va payer sur nos dettes futures, c'est assez minime parce qu'on n'est pas passé de triple A à simple A non plus.
Oui, c'est ça.
Fait que écoutez, c'est une nouvelle en soi parce que oui, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas diminué de cote de crédit. Mmh. Par contre, c'est vraiment pas la panique que certains ont voulu exposer ce matin.
Mais c'est un premier pas. Oui. C'est pour ça, c'est le premier pas qui est fait. Là, tu te rends compte que, comme l'expliquait Francis, si les autres agences de notation suivent, puis là, ben, si on continue de dépenser de manière irresponsable, ouais, parce que c'est eux qui jugent ça au final quand ils descendent ta cote, ben là, s'ils descendent ta cote de double A+, puis là, finalement, elle descend double A,
c'est ben, ça continue de descendre, ça va être un problème. Par contre, je pense que ça va suivre les autres pays aussi, qui eux aussi ont dû mettre en place des programmes d'aide sur un peu sur le fly, là, très très rapidement. Alors j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va vraiment sortir du lot en matière de cote de crédit, puis est-ce qu'on va vraiment démontrer qu'on est particulièrement mauvais pour gérer l'argent au Canada? Peut-être, mais ça, seul l'avenir va nous le dire.
Ben, c'est ça.
Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir mis en place des programmes, là. Ils ont fait ça partout dans le monde, partout où les gouvernements avaient les moyens de le faire, en fait.